Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. Pendant cette 9e série d'études consacrée à ce livre, nous abordons les chapitres 32 à 34. Romuald nous rejoint pour nous faire part de ses réflexions. Mais pour commencer, il va nous rappeler l'histoire racontée dans les 30 premiers chapitres du livre de l'Exode. Romuald, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. Au début du livre de l'Exode, le peuple de Dieu vit dans l'esclavage en Égypte. Cependant, le Tout-Puissant intervient pour libérer ces gens. Et par l'intermédiaire de Moïse, il les conduit à travers le désert vers le pays promis de Canaan. Au chapitre 32, le peuple de Dieu se trouve au pied du mont Sinaï. Moïse, quant à lui, est monté sur la montagne pour y rencontrer Dieu et y recevoir les 10 commandements. Mais lorsque Moïse est sur la montagne, le peuple de Dieu demande à Aaron de leur fabriquer un veau en or. Puis le peuple se met à rendre un culte à cette idole et il plonge dans la débauche en suivant les mœurs impures des peuples environnants. De ce fait, Dieu leur exprime sa juste colère en affirmant son intention de les châtier. Toutefois, Moïse se met à prier en faveur du peuple, et Dieu va renoncer à son châtiment pour, à la place, renouveler son alliance avec le peuple. Pourquoi ? Parce que Dieu a déclaré « Je suis l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché. » Aujourd'hui, nous abordons la suite du récit dans lequel Dieu fait une promesse à son peuple. Et cette promesse est donnée avec une série de commandements. Écoutons notre lectrice.
Faites bien attention à ce que je vous commande aujourd'hui. Je vais chasser devant vous les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Gardez-vous bien de conclure une alliance avec les habitants du pays dans lequel vous allez entrer. Ils deviendraient un piège au milieu de vous. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles et vous abattrez leurs pieux sacrés. Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité, car le nom de l'Éternel, c'est le Jaloux. Un Dieu qui ne tolère aucun rival. N'allez donc pas conclure une alliance avec les habitants du pays, car vous seriez entraînés à vous prostituer avec leur Dieu, et ces gens vous inviteraient à manger de ce qu'ils ont offert en sacrifice. Puis, vous prendriez parmi leurs filles des épouses pour vos fils, et leurs filles, continuant à se prostituer avec leur Dieu, entraîneraient vos fils à faire de même.
Merci. Nous venons d'écouter la lecture du livre de l'Exode au chapitre 34, les versets 11 à 16. Quelle est donc la promesse donnée dans cette lecture biblique?
La promesse donnée est celle de chasser loin du peuple d'Israël les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens.
Et qui étaient ces gens?
À l'époque, il s'agissait de diverses tribus qui vivaient sur la terre de Canaan, la terre vers laquelle Dieu avait promis de conduire son peuple. Néanmoins, il est important de rappeler que Dieu avait promis cette terre aux premiers ancêtres du peuple d'Israël, Abraham. Abraham était un nomade riche, qui n'avait cependant ni héritier ni terre. Dans le livre de la Genèse, nous apprenons toutefois que Dieu avait promis à Abraham de nombreux descendants qui deviendraient un jour une nation vivant sur ses propres terres, en l'occurrence le pays de Canaan. Un jour, Abraham et sa femme Sarah ont miraculeusement donné naissance à un fils dans leur vieillesse. Environ 1000 ans plus tard, ses descendants, le peuple d'Israël, ont été libérés de l'esclavage en Égypte. Dieu maintenant conduit son peuple vers la terre promise, Canaan. Cependant, des obstacles redoutables semblent barrer leur chemin, car le pays de Canaan est habité par des tribus bien armées. Le peuple d'Israël, quant à lui, n'est ni bien armé, ni habitué à la guerre. Alors, comment prendre possession de la terre promise?
Dieu répète sa promesse en affirmant que lui, le Tout-Puissant, chassera personnellement ses tribus pour donner le pays de Canaan à son peuple.
Oui, et en lisant la suite de l'Ancien Testament, nous apprenons que Dieu a été fidèle à sa promesse. Son peuple a pu progressivement prendre possession de la terre promise grâce à l'intervention puissante de l'Éternel.
Oui, c'est vrai. Mais certains peuvent s'étonner de la violence que cette occupation de la terre promise a nécessité.
C'est une question importante. Il est tentant de penser que ces tribus étaient innocentes et que le fait d'être violemment chassées de leur terre représente une injustice commise par l'Éternel. Je voudrais simplement rappeler que ces tribus s'opposaient à Dieu. Elles pratiquaient l'idolâtrie, le sacrifice d'enfants était fréquent, ainsi que la débauche et la prostitution, la sorcellerie et la divination. Il s'agissait donc de sociétés cruelles et immorales. Vu sous cet angle, on peut affirmer que l'occupation de la terre promise représentait une expression de la justice divine.
Merci Romuald. Donc Dieu rassure son peuple en lui réaffirmant qu'il accomplira ses promesses envers lui. Le jour viendra où le peuple prendra possession du pays de Canaan. Cependant, cette promesse s'accompagne d'une série de commandements.
Oui, il s'agit d'une très forte mise en garde des dangers d'idolâtrie. Dieu répète, sous des formes différentes, le premier des 10 commandements, qui consiste à ne pas pratiquer l'idolâtrie. Ce commandement donné est très pertinent, pour deux raisons. D'abord, le peuple vient justement de désobéir à ce commandement. Il vient de demander à Aaron de fabriquer un veau d'or. Et le peuple s'est prosterné devant cette nouvelle idole. Dieu leur a pardonné cet acte de désobéissance et il a renouvelé son alliance avec son peuple. Mais maintenant, il insiste très fermement qu'il faut fuir l'idolâtrie. Il ne faut surtout pas que cet instant déplorable avec le veau d'or se répète. Il y a une leçon ici pour chacun d'entre nous.
Quelle est-elle?
Lorsque Dieu nous pardonne, il veut aussi voir en nous le désir de lui être fidèle, de rechercher la justice et la sainteté. Nous ne devons pas abuser de sa grâce, ni de sa bonté en continuant de pratiquer le péché qu'il vient juste de nous pardonner.
Merci. Oui, c'est une leçon importante. Vous voulez, je pense, citer une deuxième raison pour laquelle Dieu insiste sur ce commandement interdisant l'idolâtrie.
Tout à fait, Yann. Le peuple d'Israël allait rencontrer des tribus idolâtres et Dieu le met en garde contre la tentation d'intégrer leurs pratiques et de devenir comme eux en abandonnant Dieu pour adorer ses idoles. En fait, Dieu charge son peuple de mener une lutte contre l'idolâtrie et de témoigner auprès de ses peuples de la vérité qu'il n'existe qu'un seul Dieu, l'Éternel. Dieu demande à son peuple de détruire les idoles faites de pierre et de bois, de supprimer également tout espace et lieu associé à cette idolâtrie. À la place, il devait encourager les gens à adorer le seul vrai Dieu. Ainsi, le peuple de Dieu est appelé à exercer une bonne influence sur ces tribus idolâtres. Cependant, Dieu craint que ces tribus n'exercent une mauvaise influence sur Israël en l'invitant à participer à des fêtes idolâtres et en proposant leurs filles en mariage. Au vu de ces tentations et de ces dangers, Dieu insiste pour que son peuple ne s'associe pas avec ces tribus, mais maintienne plutôt une certaine distance. Dieu appelle son peuple à la sainteté. Son peuple est différent. Et pour rester différent, il fallait garder ses distances et ne pas trop fréquenter les gens idolâtres et immoraux. De mauvaises fréquentations conduisent trop souvent à de mauvaises mœurs.
Merci Romuald de nous avoir si bien expliqué ce récit. Vos propos suscitent des questions concernant le chrétien et ses rapports avec le monde qui l'entoure, surtout s'il vit dans un contexte fortement idolâtre. Le chrétien doit-il se retirer du monde? Doit-il arrêter ses fréquentations avec certains amis, ses collègues de travail, ses voisins? Nous sommes appelés à la sainteté, à être différents. Cela veut-il dire que nous devons garder nos distances avec le monde et ériger comme des murs de séparation? André nous rejoint pour répondre à ces questions. André, bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Oui, ces questions ont été débattues tout au long de l'histoire de l'Église et pendant les quelques minutes qui me sont données, je ne pourrai que vous faire part de quelques remarques brèves. Il est vrai que si nous fréquentons des personnes qui pratiquent ouvertement le mal, que ce soit l'idolâtrie et la sorcellerie, que ce soit l'immoralité sexuelle, que ce soit la corruption, le mensonge et un manque d'intégrité, elles peuvent devenir une source de tentation, une mauvaise influence. Elles peuvent nous entraîner délibérément vers le péché. Ou bien, inconsciemment, nous pouvons assimiler leur façon de penser et leurs attitudes mauvaises. Pour cette raison, certains chrétiens préconisent la séparation totale. Quelque part, à travers l'histoire de l'Église, le mouvement monastique représente cette approche. Devenir moine ou religieuse, c'est se séparer du monde pour vivre dans un monastère pour poursuivre la sainteté. Sans aller jusque-là, d'autres chrétiens conseillent qu'effectivement, il faut couper ses ponts avec toute fréquentation mauvaise et ne pas aller dans les lieux où nous risquons de tomber dans la tentation. S'il est vrai que le chrétien est appelé à la sainteté, Dieu le charge également d'autres appels. Le chrétien est appelé à aimer son prochain. Comment aimer son prochain si nous érigeons des murs de séparation, si nous nous isolons? Le chrétien est également appelé à témoigner de sa foi en Jésus-Christ, annoncer la bonne nouvelle. Comment pourrions-nous accomplir cette mission si nous coupons les ponts avec toutes les personnes que nous fréquentions? Dans les évangiles, nous rencontrons un homme nommé Matthieu. Il était collecteur d'impôts et de ce fait un homme corrompu et malhonnête. Un jour, il a rencontré Jésus. Matthieu met sa confiance en lui et il commence à le suivre. Il s'est repenti de sa corruption, ce qui le conduit à quitter son métier. Cependant, il n'a pas quitté ses amis et fréquentations qui, comme lui, étaient pour la plupart des gens de mauvaise réputation, trempés dans la corruption. Non, au lieu de les quitter, il a décidé de tenir un banquet auquel il a invité ses amis, ainsi que Jésus et ses disciples. Il voulait que ses amis aient l'occasion de rencontrer Jésus. Quel exemple merveilleux d'un bon témoignage. Pour finir, il est difficile de donner une règle précise et absolue. L'idéal, c'est de rester dans le monde et de garder nos fréquentations, pour être un bon prochain et un bon témoin, tout en étant différent, c'est-à-dire juste et pur. Cependant, il faut user de sagesse et être honnête avec soi. Si nous avons des fréquentations et que nous savons en leur compagnie, nous risquons d'être entraînés vers des péchés graves, il est parfois nécessaire de prendre la triste décision d'arrêter cette fréquentation. Si, également, il y a des lieux ou des activités qui nous exposent à des tentations que nous avons du mal à résister, il vaut mieux cesser d'y aller. En bref, nous devons aller vers les autres, sauf si le danger du péché devient trop grand.
Merci André pour ces paroles de sagesse. Nous poursuivrons notre étude du livre de l'Exode la prochaine fois. Ce sera la dernière émission dans cette série. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.